C'est avec beaucoup de plaisir, toujours malgré les circonstances, que j'ai l'honneur de recevoir ce soir le professeur Cyril Cohen. Bonsoir professeur.
Bonsoir Yael.
Alors je rappelle que vous êtes chef du laboratoire d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan, mais aussi membre du comité chargé des thérapies génétiques et cellulaires au sein du ministère de la Santé. On va parler de beaucoup de bonnes nouvelles dont j'avoue on a tous bien besoin, et on va commencer par celle qui a fait le plus de titres cette dernière semaine, c'est un éventuel remède et non pas quelque chose d'intermédiaire, mais un remède au virus du sida, vraiment ?
Oui, je vais essayer, à ce niveau-là, de remettre les choses dans leur contexte. C'est très intéressant. En fait, il y a plusieurs groupes qui travaillent sur ce sujet, ces dernières années. Mm-hmm. En fait, un des gros problèmes qu'on a avec le sida, c'est que le sida, ou le virus du sida, qu'on appelle le VIH, est un virus qui change de forme souvent, qui attaque le système immunitaire, donc il neutralise nos défenses, et on n'a pas de vaccin. En fait, on n'a pas de vaccin contre ce virus qui est assez furtif, je dirais. Et comme vous le savez, ça fait à peu près 40 ans qu'on connaît malheureusement cette maladie. Et lorsqu'on analyse un peu la dynamique de ce virus, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'armes, efficaces pour anéantir ce virus, à la différence évidemment d'autres maladies virales que l'on connaît. Et donc, le traitement qu'il y a aujourd'hui est un cocktail en fait qui neutralise ce qu'on appelle dans le langage scientifique la réplication du virus. Ce que ça veut dire, donc le dédoublement et la multiplication du virus chez les patients, mais cela n'élimine pas le virus des patients.
En plus, il est assez contraignant, d'après ce que je comprends, c'est-à-dire que il faut pas boire d'alcool, il faut pas, il y a plein de contraintes à ce cocktail qui pourtant sauve la vie.
Oui, c'est un cocktail qui est basé sur trois médicaments. Et une fois de plus, il faut comprendre que ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui... c'est pas un traitement que l'on prend aujourd'hui et que l'on oublie. Je veux dire, c'est un cocktail qu'on doit prendre à vie, etc., de manière chronique. Donc, il est assez contraignant, comme vous l'avez souligné. Donc en fait, il faut comprendre la biologie un peu de ce virus, du virus du sida. Le virus du sida est ce qu'on appelle un rétrovirus. C'est un virus qui est basé sur de l'ARN, qui ressemble beaucoup, l'ARN, c'est la molécule comme qui en fait porte l'information du virus de la grippe. On produit aussi beaucoup d'ARN, virus du Covid, etc. Et donc, il y a différents types de virus. Une des choses, on appelle ça un rétrovirus, parce que ce virus est capable de prendre son ARN, chose que la grippe ou le Covid ne font pas, et le transformer en ADN, et l'intégrer à l'intérieur de notre ADN à nous. Et donc, en fait, le virus se fuse, se fusionne avec notre propre génome. Ça, c'est un gros problème, parce que ça veut dire qu'en fait, il rentre à l'intérieur, non seulement de nos cellules, mais il rentre à l'intérieur de notre ADN.
De notre identité,
l'ADN est qui se trouve dans le noyau, est en général bien gardé pour pas qu'il y ait justement de telles modifications. Mais c'est un des virus qui sait le faire. Et donc, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas l'éliminer, parce qu'il fait partie maintenant intégrante de nos cellules. Et donc arrivent ces nouvelles technologies, les technologies qu'on appelle par exemple CRISPR, qui sont des technologies avec lesquelles on peut éditer notre génome. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire que l'on peut modifier, insérer des copies, retirer des copies, couper des bouts d'ADN à l'intérieur même de nos cellules. Et donc, évidemment, vous savez, pour ce travail, avait été reçu de manière générale pour cette méthode. Le prix Nobel avait été décerné justement à Emmanuel Charpentier et à Jennifer Doudna. Justement, à l'époque du Covid, il y avait beaucoup de mécontentement
de confusion,
en France.
Oui, c'est ça, de mécontentement et de confusion de confusion et surtout d'assimilation pas forcément saine ou réelle.
Non seulement ça. Le problème, c'est qu'Emmanuelle Charpentier est à la base une microbiologue française, microbiologiste française, qui avait quitté la France justement pour aller en Allemagne. Et je me souviens, souvent sur les plateaux, on disait, voilà, la France est déclassée au niveau scientifique, les grosses têtes quittent la France, etc. Donc son nom avait été mentionné, et c'est elle qui a, avec Jennifer Doudna, qui ont justement découvert ce système qui s'appelle CRISPR, qui nous permet aujourd'hui, je dirais, on va dire à peu près une dizaine d'années après, un peu plus même, après la découverte de ce système, d'utiliser ce système pour faire des modifications dans l'ADN. Et c'est vraiment révolutionnaire, parce qu'en fait, ça nous permet, on a deux manières de modifier l'ADN. Soit on utilise des virus. Je vous ai parlé d'un rétrovirus. On peut utiliser des rétrovirus, les rendre inoffensifs et justement les transformer en virus qui nous aident, qui par exemple pourraient, et ça je donnerai quelques exemples après, qui pourraient amener à nos cellules, par exemple, les recettes de protéines que nous, nos cellules ne savent pas fabriquer, justement pour aider certains patients. Mais on peut aussi utiliser en parallèle ce qu'on appelle la méthode CRISPR. Il y a d'autres méthodes justement qui sont développées pour. C'est comme des ciseaux pour couper justement un bout d'ADN que l'on ne veut pas. Et dans ce cas-là, justement, on parle du bout d'ADN du virus. Donc je reviens à votre question. En fait, il y a plusieurs groupes. Il y a deux groupes, dont un groupe à Amsterdam, il y a aussi une compagnie, qui ont montré qu'ils sont capables de développer une thérapie dans laquelle on insère ces ciseaux. Qui ne sont pas capables d'aller trouver dans les cellules, dans le génome des cellules, dans l'ADN, le bout d'ADN parmi les, je dirais, c'est un tout petit bout parmi 3 milliards de lettres, trouver le petit bout d'ADN qui est responsable ou qui est l'ADN viral, est rétrotranscrit, et le couper et l'éliminer. Et donc cela veut dire éliminer le virus. Attention! Évidemment, ça, c'est... Et donc, ils ont démontré, la possibilité d'utiliser cette méthode, mais il faut aussi comprendre, évidemment, comme dans tout développement, qu'il y a, certains obstacles à faire cela de manière, générale.
Je voudrais vous poser une question qui va vous paraître peut-être bête, mais juste parce que j'essaye de comprendre avec des mots un peu plus simples ce que vous dites. Récemment, une scientifique israélienne qui avait allumé une torche lors de la cérémonie de Yom HaTzmaout avait réussi à trouver pour le cancer une technique qui avait la possibilité d'éliminer uniquement les cellules malades et non pas toutes les cellules, comme le faisait la chimiothérapie jusqu'alors. Est-ce que c'est à peu près ça que vous nous dites sur cette nouvelle technique ?
Pas exactement. Les techniques là dont vous parlez, ce sont des techniques que nous aussi on emploie, justement de cibler les cellules cancéreuses qui ressemblent à la base beaucoup à nos cellules normales, puisque le cancer est un développement qui découle de nos cellules, c'est une transformation de nos cellules. Mais je dirais que de manière générale, il y a beaucoup de progrès dans ces approches qui sont ce qu'on appelle les approches de médecine personnalisée. Voilà. Où on est capable aujourd'hui de, une fois de plus, je veux quand même, mon enthousiasme est aussi influencé par la réalité. Il y a des progrès, évidemment, il y a beaucoup d'échecs, ça aussi, il faut le dire. Mais bon, vu qu'on est, dans la partie optimiste de l'émission, on va quand même conserver notre optimisme et dire qu'il y a des progrès. Et justement, on a aujourd'hui des médicaments qui ont reçu l'approbation de différents ministères de la Santé, de la FDA, qui sont basés sur ce qu'on appelle de la thérapie génique. On modifie, on change l'ADN de personnes malades, justement à des fins thérapeutiques, et on sauve des vies.
Et donc, si demain une personne apprend, à ce qu'à Dieu ne plaise, qu'elle est atteinte du virus du sida, depuis longtemps, c'est plus un arrêt de mort, mais elle ne devra pas forcément prendre ces cocktails de 3 médicaments qui gâchent un peu la vie, mais elle pourra prendre un médicament qui la guérira du virus du sida.
Plus ou moins. On est encore un peu loin, justement. Ce sont juste, il y a ce qu'on appelle, vous savez, ce qu'on appelle en anglais des proof of concept, justement des preuves, en éprouvette, mais on n'est pas encore à une commercialisation d'un tel remède, mais tout a commencé par cela. Vous savez, l'ARN messager, les vaccins, etc., dont on a parlé, ça faisait 30 ans qu'on connaissait cette méthode, etc. C'est pas avec l'avenue du Covid Covid et que l'on a découvert l'ARN messager. Donc, ça prend quand même du temps. Et vous savez, malheureusement, les gens qui sont malades...
Souvent n'ont pas ce temps-là,
c'est pas la même échelle pour eux. Mais quoi qu'il en soit, il faut que ça commence par quelque chose. Voilà.
Donc des nouvelles encourageantes. Pour l'instant, en tout cas, des nouvelles encourageantes. Totalement. Alors, il y a encore beaucoup de bonnes nouvelles que vous allez nous donner sur des développements assez phénoménaux qui ont eu lieu ces trois dernières années. Tout d'abord, au sujet de l'anémie falciforme, puisque je connaissais ce mot-là il y a encore une demi-heure. Évidemment, non. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et surtout, quels progrès fabuleux ont été réalisés à ce sujet-là.
La chose est que dans toutes les thérapies géniques aujourd'hui, pour l'instant, vous savez, on essaye de se limiter à des maladies dans lesquelles il y a seulement un gène qui est impliqué. Je vais vous expliquer. Nous avons à peu près, notre corps est basé, notre ADN contient à peu près 20 à 30 000 gènes. C'est plus ou moins les chiffres que l'on a, c'est-à-dire 20 à 30 000 recettes, entre guillemets, de protéines qui font fonctionner notre corps. Donc on a des protéines qui forment nos fibres musculaires, et on a des protéines qui enveloppent nos nerfs, et on a des protéines, justement, là, je dirais, une des protéines les plus connues, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine.
Je ne savais pas que c'était une protéine, mais je connaissais le mot, oui. Pour moi, c'était les cellules rouges du sang, mais...
Non, alors c'est l'hémoglobine, c'est la protéine qui se trouve à l'intérieur de nos globules rouges et qui en fait est chargée de transporter l'oxygène depuis nos poumons jusqu'à toutes nos cellules dans tout le corps, qu'elles soient au bout du pied ou qu'elles soient dans le cerveau, etc. Donc une question d'oxygénation, d'accord. Et donc c'est d'ailleurs fantastique de comprendre comment cette protéine fonctionne. J'explique souvent à mes étudiants, justement, je l'ai expliqué il y a 3 semaines. Que cette protéine fonctionne un peu comme c'est un mécanisme assez particulier, un peu comme des actions. Lorsqu'il y a beaucoup d'argent à se faire, lorsqu'il y a beaucoup d'oxygène, cette protéine s'adapte et capture tout l'oxygène qu'elle peut. Et lorsqu'elle arrive dans des endroits où il n'y a pas suffisamment d'oxygène, de manière très 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 rapide, elle distribue l'oxygène aux cellules qui en ont besoin pour pas qu'elles meurent. Bon, alors c'est une protéine qui est fantastique, mais le problème, c'est que cette protéine est une protéine qui, quelquefois, peut subir des mutations. Et donc, vous avez parlé de l'anémie falciforme. Falciforme, c'est une faux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être jolie et ronde, nos globules rouges deviennent... ont la forme d'une faux. Vous savez comme dans le drapeau russe. Enfin, c'est un drapeau pas russe,
communiste,
drapeau soviétique.
Oui, c'est ça.
À cause de ce changement de forme, et ça, il faut le dire, c'est à cause de quelques atomes qui sont modifiés, une mutation, je dirais, un peu bébête, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas suffisamment d'oxygénation, et qui, toute leur vie, auront certaines difficultés. Arrive la thérapie génique et qui dit, écoutez, on va remplacer, on va vous donner la bonne recette. OK, comme si vous aviez photocopié la bonne recette, vous la mettez par exemple dans un petit virus gentil, pas méchant, qui va transporter cette recette à l'intérieur du corps des patients. Ce virus va injecter cette recette dans nos cellules et nos cellules vont lire cette recette et vont fabriquer de l'hémoglobine normale, ce qui va permettre de rétablir chez ces malades justement une consommation. Alors, ce qu'on est fort, entre guillemets, aujourd'hui, c'est quand ces maladies tournent autour d'un seul gène. Lorsqu'il y a plusieurs gènes qui sont impliqués, là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il faut évidemment, théoriquement, transporter plusieurs gènes, et ça, on est limité technologiquement par nos systèmes. Et puis aussi, il faut comprendre ce qu'on appelle la régulation de ces systèmes, comment chaque protéine, interacte avec d'autres protéines, avec les autres protéines. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on a ce qu'on appelle des maladies qu'on appelle monogéniques, où il y a un seul gène qui est impliqué, on a aujourd'hui certaines possibilités, évidemment, Enfin, comme je vous le disais, il y a des obstacles, mais on a certaines possibilités pour aider. Pareil, justement, pour l'hémophilie. Vous savez que l'hémophilie est une maladie où les personnes qui, justement, ont ces mutations, cette mutation, cette maladie, ce sont des personnes qui saignent et où le sang ne se coagule pas comme il faut. Et donc, il ne se coagule pas parce qu'il manque ce qu'on appelle un des facteurs, par exemple le facteur 9, une protéine, une fois de plus, qui est manquante ou qui est mutée. Et donc, on peut, justement, aujourd'hui, ça a été approuvé il y a quelques mois par la FDA, un nouveau traitement génétique où on peut injecter un virus qui va réparer, justement, qui va vous donner la bonne recette. Et même si vous ne produisez pas, par exemple, 100% de protéines, mais on va dire 10% justement de cette protéine, c'est suffisant pour vous donner une chance et une option de beaucoup moins souffrir de ces maladies. Et voilà, puis on voit toutes sortes de développements comme cela qui, c'est un peu la science-fiction, mais ça sauve des vies.
Alors, la dernière maladie dont je voulais que vous nous parliez, pareil, j'ai appris le terme il y a vraiment quelques instants, l'amyotrophie spinale et les miracles que ça fait pour ce que vous avez constaté, racontez-nous.
Ben oui, écoutez, ça c'est une maladie qui affecte les gens. Qui affecte les bébés surtout. C'est caractérisé par c'est une maladie héréditaire et elle est caractérisée par une faiblesse et une atrophie des muscles. Elle n'affecte pas, le cerveau, mais elle affecte le système nerveux, ce qu'on appelle les motoneurones. Elle peut conduire justement au décès d'enfants en très bas âge dans les cas les plus sévères. Et une fois de plus, les neurones sont malades parce qu'ils ne produisent pas une certaine protéine qui les protège et qui les aide. Et je vous le dis, j'ai fait partie du comité en Israël qui a donné son approbation pour la première fois pour une thérapie génique. Je me souviens du débat qu'on a eu parce que malheureusement, le prix, et ça je crois que c'est un des obstacles, le prix de tous ces traitements se chiffre en millions de dollars, 2 ou 3 millions de dollars ou 4 millions de dollars, ce qui est malheureusement, je vous le dis, quelque chose qui nous attriste. D'un autre côté, bon, le développement de ces médicaments coûte assez cher, mais quoi qu'il en soit, je peux vous dire que dans le comité, lorsqu'on a vu, et on connaît le pronostic de ces enfants qui sont malades avec cette mutation, où à 6 mois, ils sont apathiques et ont du mal à bouger, à 1 an, et ils sont pratiquement paralysés, et beaucoup, dans les formes sévères, meurent entre l'âge de 2 et 3 ans, lorsqu'on a vu vraiment les essais cliniques, des films d'enfants qui ont reçu cela à temps, parce qu'il faut l'injecter suffisamment à temps pour justement prévenir, empêcher la destruction des neurones, on voit tout d'un coup des enfants qui marchent.
Waouh !
Je vous dis, il n'y a pas un seul... Je crois que les yeux de tout le monde larmoyaient lorsqu'on a vu ces images, parce qu'on réalise, même si c'est une fois de plus, j'en reviens, ça semble être de la science-fiction, mais on parle de médicaments qui changent tout simplement la vie, qui donne une chance à des enfants qui pouvaient mourir, à des enfants qui toute leur vie seraient restés paralysés, donne un espoir. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, je dirais, d'optimisme lorsqu'on en vient là.
À ces enfants, à leurs parents et surtout aux frères et sœurs qui peuvent récupérer une vie normale. Voilà, vous voyez, c'est des familles entières dont la vie change.
C'est des familles, et puis c'est le but, c'est notre but, c'est de développer des thérapies qui vont aider. C'est ce qu'on appelle, vous savez, en hébreu, le tikkun olam.
La réparation.
Et c'est le but, exactement, la réparation. Et donc chaque année, il y a, en Israël, mais aussi bien à l'étranger, on a un congrès justement de thérapie génétique. On a l'ISGCT, Israel Society for Gene and Cell Therapy, où on se réunit, on discute de derniers développements qui sont en Israël, et choses que, par exemple, moi je travaille sur le cancer, mais d'autres développements, justement, de par le monde. On amène tout le temps quelqu'un qui vient de l'étranger, justement, un des grands ponts, justement, pour qu'il nous raconte un peu son travail. Et voilà, c'est le but, mais ce qui est encourageant, c'est que c'est plus la science-fiction. Alors, c'est vrai que certaines maladies, elles sont encore inatteignables au niveau, genre, traitement est inatteignable, mais petit pas par petit pas, on essaye de progresser.
Merci professeur Cohen de nous avoir donné des bonnes nouvelles, des nouvelles encourageantes, des nouvelles qui ont pu nous permettre d'esquisser un sourire dans ces moments difficiles. Et j'espère à très bientôt avec d'encore meilleures nouvelles sur les ondes de Cannes en français.
Je l'espère aussi. Merci beaucoup Yaël et bonne soirée à vous et à vos auditeurs.